Chapitre 7, verset 15. 1 Samuel, chapitre 7, verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mispa, et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Voilà, il est question dans ces quelques lignes de Samuel, le prophète Samuel, qui a été un homme remarquable et qui a joué dans l'histoire du peuple d'Israël un rôle essentiel. C'est lui qui va oindre le premier roi d'Israël, Saül, puis il va beaucoup pleurer sur lui, et il aura aussi l'honneur et le privilège de pouvoir oindre son successeur, David, l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Il est dit que Samuel était reconnu prophète de Dan à Beersheba, c'est-à-dire d'une extrémité du pays jusqu'à l'autre. Dan, c'est les sources du Jourdain, Beersheba, c'est au fin fond du désert. Et pour le peuple, c'était une évidence. Samuel était un homme de Dieu. Samuel était prophète de l'Éternel. Il est même dit dans ce texte qu'il fut juge en Israël. Il a d'ailleurs été le dernier des juges, et ainsi il exerçait une autorité civile et une autorité religieuse. Un personnage important. Son autorité, au bout du compte, il la détenait de Dieu, de ce Dieu à qui il avait dit un jour, alors qu'il était enfant et qu'il ne savait pas trop ce qui se passait, « Par l'Éternel, ton serviteur écoute. » Sur les conseils du souverain sacrificateur qui, lui, avait perdu pied. Et il est dit que dans cette période, la parole de l'Éternel était rare. Alors non pas que Dieu n'avait rien à dire, le problème c'est qu'il n'y avait personne pour l'écouter. Et à un moment donné, Dieu a voulu parler et il s'est adressé à cet enfant. Ce n'est pas trop l'âge qu'il avait, mais à cet enfant. Et quand il a entendu son nom, il croyait que c'était Élie, le souverain sacrificateur, qui l'appelait. Il s'est vite présenté et il l'a réveillé. L'autre lui a dit « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et puis son nom retentit encore, alors il va à nouveau. Et puis là, Élie a commencé à comprendre et il lui a dit « Si tu entends à nouveau, alors tu diras « Éternel parle, ton serviteur écoute. » Et c'est là que pour la première fois, Samuel a entendu la voix de Dieu. Mais il l'a entendu jusqu'à son dernier souffle. Tout son parcours, tout son ministère a été marqué par le fait qu'il entendait, qu'il recevait, qu'il accueillait la voix du Seigneur. Il est dit qu'il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. C'est important ça. La parole retentit, elle atteint notre cœur, mais elle ricoche pas. Elle le pénètre. Elle fait son œuvre. Elle façonne notre vie. Elle nous équipe. Elle nous donne les moyens de faire face aux réalités. Samuel n'a pas vécu dans une période facile. Il a vécu dans une période perturbée. Perturbée spirituellement, moralement, perturbé sur le plan économique, perturbé sur le plan politique, rien n'était simple. Pourtant, il a été fidèle. Fidèle pendant toute sa vie. Si on regarde rapidement quelques détails, Israël a été asservi aux Philistins. L'Arche de l'Alliance, dans le cadre d'une bataille, a été prise. Elle est restée en terre philistine pendant 7 ans. Il y avait de l'idolâtrie. Les deux vedettes, c'était Baal et Astarté. Les fils d'Élie, le souverain sacrificateur, ils étaient corrompus et ils étaient corrupteurs. Il y avait un mépris des offrandes. Ses fils n'ont pas marché sur ses traces. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Pas toujours évident quand nos enfants ou nos petits-enfants, pour lesquels on a prié, à qui on a raconté l'histoire de David et Goliath et toutes les autres, qu'on a amenés à ce que nous appelons chez nous l'école du dimanche, le culte pour enfants. Et dès que le garçon a trois poils au menton, voilà, il ne veut plus venir. Et ce n'est pas évident. Ces fils n'ont pas marché sur ces traces. J'aimerais simplement vous dire, priez, continuez à prier pour vos enfants. Alors vous allez me dire, mais attendez, vous êtes venus juste pour nous dire ça. Bien sûr qu'on prie tous les jours pour nos enfants. Je l'espère. Parce qu'il est dit dans l'Écriture, « Père, n'irritez pas vos enfants. » Donc ça veut dire que quelquefois, il y a des pères ou des mères ou des parents qui irritent leurs enfants. Ouais, au lieu d'aller courir dans la rue là, avec ton copain, tu ferais mieux d'aller à la réunion dimanche après-midi. Ça irrite l'enfant. Parce que si le langage est tourné différemment, mon fils, j'aimerais tant que tu viennes avec moi à la réunion du dimanche après-midi. C'est pas pareil. On n'envoie pas ses enfants à la réunion. Ils viennent avec nous. On donne le ton, on donne l'exemple. Alors, ok, ils n'ont pas toujours envie de venir. Moi, j'ai fait partie de ceux-là en son temps. Donc, je dis qu'il faut prier et croire que la semence qui a été placée dans leur cœur, qui est appelée la semence incorruptible, la parole, au temps convenable, elle va faire son œuvre, elle va germer, elle va produire son fruit. Bon, je vous accorde que de temps en temps, on aimerait dire au Seigneur, tu pourrais pas, s'il te plaît, accélérer un petit peu le pas. Mais croyez que rien n'est perdu. Et qu'au temps convenable, eh bien, il est celui qui agit. Et vous qui avez vos enfants, vos petits-enfants dans l'église, surtout ne dites pas à l'autre, oui, mais si tu avais fait comme moi. Il a peut-être fait mieux que vous, et ça ne s'est pas vu, et ça n'a pas marché. Et vous, dans le fond, vous n'avez peut-être pas fait grand-chose, mais Dieu a eu compassion de vous. Et on n'est pas là pour se mesurer les uns aux autres, on est là pour se s'épauler les uns les autres. J'allais dire se supporter, bien sûr, mais s'encourager les uns les autres. Et ça, c'est important. Alors, je ferme ma parenthèse. Et puis, Saül, ce fut un véritable fiasco. Et pourtant, Samuel a été fidèle. Quelqu'un va me dire, oui, mes frères, vous parlez de l'ancienne alliance. Maintenant, on est sous la nouvelle alliance. Les choses sont différentes. D'accord. Paul a connu cela aussi. Il a eu affaire à Démas, qu'il a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il a eu affaire à Hyménée. Il a eu affaire à Alexandre le forgeron qui lui a fait tant de mal. Il a eu affaire à Philette. Il va même dire à son jeune collègue Timothée, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Et plus tard, il dira, « Ma course est achevée, j'ai gardé la foi. » Lorsqu'il a dû comparaître devant les autorités, tous l'avaient abandonné, personne ne l'a assisté. Et dites-moi, ils étaient où les apôtres? Ils étaient où les pasteurs? Ils étaient où les diacres? Ils étaient où les anciens? Elles étaient où les diaconesses? Il n'y avait plus personne, hein? Pourtant, c'était bien institué, là. Mais, comme on dit, ils se sont tous envolés comme une volée de moineaux. Personne. Vous savez, dans un grand procès, il y a toujours un espace au tribunal qui est réservé au public. Moyennant votre carte d'identité, etc., et le nombre de places qui peuvent être réservées, vous pouvez assister comme auditeur à un procès. Et moi, j'aurais bien imaginé un apôtre, un pasteur, un diacre, un ancien, une diaconesse, là, dans la partie réservée au public, avec une grande discrétion. Et Paul aurait remarqué la personne, là. Et la personne lui aurait fait un petit coucou de la main, ou un petit sourire. La Bible dit que je leur souriais, et ils reprenaient courage. Eh bien, même pas. Personne. Et pourtant, il dira que cela ne leur soit point imputé, qu'on ne mette pas ça sur leur compte. Je peux arriver à comprendre. Et il est resté fidèle. Il n'a pas subitement dit « Ah, mais si l'Église, c'est comme ça, et si eux, ils se comportent comme ça, je la quitte, je pars ailleurs. » Non, qu'on ne mette pas ça sur leur compte. Je peux arriver à comprendre. Et il termine et il dit « Ben, je suis là. J'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il nous faut rester fidèles et cela jusqu'à la fin. Malgré les problèmes, malgré les tracas, malgré ces choses que nous avons énoncées et qui sont de taille. Ouais, mais pasteur, mettez-vous à ma place. Ben, on n'a surtout pas envie, hein. Mais essayez de me comprendre. C'est pas facile. Ben oui, mais c'est pas facile pour tout le monde. Ouais, mais vous me le dites à moi et à lui là-bas au fond. Vous le lui avez dit. Mais ça te regarde pas. Jésus a dit à Pierre, mais que t'importe? Il demandait ce qui allait arriver à Jean. Ça te regarde pas, Pierre. Que t'importe? Ce qui est important, c'est que toi, tu me suives. Eh oui. Seulement, ce que je constate, c'est que Paul était lui aussi nourri de la parole de Dieu. J'ai besoin de cette nourriture. J'ai besoin de l'assimiler. J'ai besoin qu'elle me procure, eh bien, les éléments, les ingrédients, les, je sais pas moi, les protéines, etc., pour mon être spirituel, pour que j'affronte la réalité. Paul dira, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Parole de la foi, parole de Dieu, la doctrine, l'ossature, la colonne vertébrale, les bases fondamentales que tu as exactement. Pas à peu près, ouais, il me semble que... Non, exactement. Suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Bon, dans le texte, il est dit de vieilles femmes. Ben, je crois qu'il y a aussi peut-être de vieux monsieur. Il y a peut-être aussi aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de jeunes femmes et de jeunes hommes. Mais qu'importe. Ce qui est important, c'est de repousser les contes profanes et absurdes. Dans notre région, bon, elle est grande, hein, ça va de Nice à Marseille. C'est une des plus grandes de France, sur les 12, à part Paris. Mais il y a un pasteur qui m'a appelé, il y a 3 jours, pour me demander un conseil. Bon, je lui ai donné le conseil que je pensais être judicieux, et je lui ai dit, écoute, selon comment tu vas faire, dis-moi, parce que s'il le faut, je me déplace et je vais aller à tes côtés pour t'aider. Parce qu'il y a une brave femme qui arrive d'Australie, qui est bien sûr apôtre, parce que quitte à faire le déplacement, il vaut mieux ce titre, et qui a une méthode par A plus B pour ressusciter les morts. Et elle a contaminé un couple de cette assemblée du pasteur en question. Et c'est pas simple, c'est gravissime ça. C'est gravissime. Il y a toujours des gens qui ont, on se demande où ils vont chercher les idées, hein. Voilà. Et je crois que nous avons besoin de repousser les contes profanes et absurdes. Faut être clair, net Et c'est Alexandre Vinet qui disait qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour les hommes et aucune pitié pour les idées. Et la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le psalmiste dira « Je le nourrirai du meilleur froment ». Le meilleur des froments, c'est celui qui est le pain de vie, Jésus. Je suis le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de la parole. À l'Apocalypse, il sera dit à l'église de Smyrne, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Bien sûr qu'il est important de prendre le départ, mais il faut franchir la ligne d'arrivée. Et là, on a besoin de toute la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur est celui qui nous accorde sa miséricorde pour que nous soyons trouvés fidèles. Ensuite, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Je veux la bénédiction, ben j'ai raison, hein. Mais ce n'est pas compliqué, soyons fidèles. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et pour l'œuvre de Dieu, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et l'œuvre de Dieu se fait par le canal de la fidélité. Voilà. Et que Dieu nous aide. Mais je voudrais revenir sur les quatre villes que Samuel visitait régulièrement. Samuel fut en quelque sorte un prophète, un juge, eh bien de circuit. Et il exerçait cette autorité à Bethel, à Gilgal, à Mispa et à Rama, ville dans laquelle il habitait, ville dans laquelle, eh bien, il est mort. Et quand on regarde ces quatre endroits, eh bien, ce sont des étapes importantes dans la vie du peuple d'Israël. Bethel. Bethel, ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle ? Jacob. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé là, avec Jacob ? Alors, je ne sais pas si c'était l'ange de l'Éternel, mais c'était des anges. Voilà, Jacob, il a roulé son père, il a roulé son frère veut l'attraper, il prend son baluchon et il part. La nuit tombe, il prend une pierre et il dort. Et il a une vision, une échelle, qui repose au sol, qui touche au ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et il se réveille et il dit « Dieu était ici et je ne le savais pas ». Et puis là, il fait une prière. Surtout, ne faites jamais cette prière, hein. Si tu me gardes, si tu me bénis, si tu m'accompagnes, si je réussis, si je vais jusqu'au bout, peut-être je te donnerai la dîme de mes biens. Ça, ce n'est pas une bonne prière quand même, hein. Mais il n'empêche que, à partir de cet instant, Dieu lui a été favorable. L'échelle, c'est l'image de la croix qui a été dressée. Le trait d'union entre le ciel et la terre. Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est à cause de la croix que Dieu nous est favorable. En dehors de la croix, cela n'est pas possible. Mes œuvres, mes mérites, etc., etc., ce n'est pas ce qui rend Dieu favorable. Mais c'est le sang précieux qui a été versé sur le bois de la croix. Et à partir de là, eh bien, Dieu a pris soin de lui. Et Jacob a pris la pierre, il l'a mise là comme une sorte de petit monument, et il a appelé ce lieu Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Et puis il a fait son chemin, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu des troupeaux. Et puis un jour, Dieu lui dit, Jacob, tu vas remonter à Bethel. D'accord. Oui, mais attends, avant de partir, tu vas faire les selles de tes chameaux. Ah bon ? Et pourquoi ? Vas-y, mets-toi à l'œuvre. Et quand il a commencé à ouvrir les selles de ses chameaux et à voir ce qu'il y avait dedans, il s'est rendu compte qu'il avait des tas de bricoles. Dans une, il n'y avait rien, dans l'autre, il y en avait deux, dans une autre, il y en avait trois. Des tas de petites choses qu'il avait ramassées au cours de ces années qui s'étaient écoulées et dont il fallait qu'il se débarrasse. Et il est dit qu'il en fit un gros tas, un gros monceau, et qu'il fit un gros trou au pied d'un grand térébinthe et il a enfoui tout cela. Et là, il pouvait monter à Bethel. La scène que nous avons partagée ce matin, c'est l'occasion de faire les selles de ses chameaux, de voir comment s'est passée la semaine, si nous l'avons prise la semaine dernière. Et voilà, et si besoin est, de réparer, de se réconcilier, de demander pardon, afin de pouvoir être libre, de faire le trou et d'enfouir tout cela auprès du térébinthe. Au bout du compte, c'est de compter sur la valeur et l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas parce que les assemblées de Dieu font ça tous les dimanches matins, parce qu'il y a d'autres mouvements, ils le font une fois par mois, d'autres une fois par an. Bon, nous, c'est tous les dimanches. OK. Eh bien, c'est l'occasion, c'est sérieux. C'est un moment solennel où chacun rentre en lui-même. Et on fait les selles de ses chameaux. Alors, vous savez, il y a des fois des petits détails. Je pense, par exemple, à Jacob, les puits que Abraham avait creusé, c'est pas Jacob, c'est Isaac. Les puits qu'Abraham avait creusés, eh bien, les opposants du coin les avaient bouchés avec de la poussière. Pas avec des cailloux, hein. Pas avec des pierres. Peut-être on aurait réussi à mettre une corde, un chameau au bout, là, et on aurait débouché le puits. Non, c'était de la poussière et c'était devenu comme du béton vibré. Et on peut accumuler des détails. Ouais, mais c'est qu'un détail. Oui, mais un détail plus un détail, ça en fait deux, hein. Et de temps en temps, on finit par se traîner un boulet. C'est la raison pour laquelle, en partageant la scène, c'est le moyen de se libérer, de s'affranchir. Et de pouvoir ainsi continuer joyeusement et bien notre course. Et quand il est arrivé à Bethel, eh bien, il a baptisé ce nom El Bethel, c'est-à-dire le Dieu de la maison de Dieu. Et pour moi, c'est très très important. Nous sommes venus ce matin ensemble dans la maison de Dieu. Non pas que ces quatre murs soient la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous, les pierres vivantes. Mais bon, ces quatre murs nous rassemblent. Donc nous sommes venus dans la maison de Dieu. C'est bien. Je peux venir et puis regarder mon smartphone. Je peux venir et puis penser si j'ai éteint le gaz quand je suis parti pour le poulet qui est au four. Je peux venir et puis mon esprit divague. Je peux venir et peut-être somnoler parce que, bon, la semaine a été compliquée. Je suis venu au culte. Je suis venu à la maison de Dieu. Pasteur, vous m'avez vu, hein? Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rencontrer le Dieu qui est dans la maison. C'est ça qui donne du relief à notre culte. Ce culte qui est agréable. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable. C'est de rencontrer le Dieu qui est là. C'est de le toucher, de nous laisser toucher par lui. Et c'est ce qui s'est produit à Bethel. Gilgal, j'y étais il y a quelques jours. C'est le premier lieu que les Israélites ont foulé de leurs pieds sur la terre promise, après avoir traversé le Jourdain. Gilgal, ça veut dire action de rouler. Et là, dans ce lieu, ils ont fait en quelque sorte leur premier quartier général pour la conquête de Canaan. Et il y a un événement qui s'est produit. Dans ce lieu, dès qu'ils y sont arrivés, Eh bien, ils ont pratiqué la circoncision. Ils sortaient du désert. Et dans le désert, la circoncision n'avait pas été pratiquée. Donc, le petit garçon qui est né le premier jour de la sortie d'Égypte et qui maintenant, au bout de 40 ans, arrive là pour faire la conquête de Canaan, il a 40 ans et on va le circoncire. Pas tout à fait évident apparemment, hein. Mais il fallait le faire. C'est-à-dire qu'il fallait déjà répondre aux exigences de Dieu, avoir sur soi cette marque dans la chair, comme quoi on appartenait au Seigneur. Il fallait aussi comme rouler, ôter l'opprobre de l'Égypte. C'était là un peuple nouveau qui avait traversé ce désert d'une façon miraculeuse et qui maintenant allait entreprendre la conquête du pays. C'est une blessure, c'est une souffrance, mais elle est indispensable. Alors pour nous, c'est quoi? Alors j'imagine que les pasteurs que vous avez eus, lorsque vous avez pris le baptême, vous ont fait une série d'entretiens pour vous préparer au baptême. Ils vous ont expliqué certaines choses, ils ont expliqué comment est la vie de l'Église, après, bien localement, comment ça fonctionne, ce que sont les assemblées de Dieu, etc., dans lesquelles vous allez entrer. Enfin, il y a des aspects pratiques et surtout des aspects spirituels. Et je pense qu'à un moment donné, il y a une question qui a été posée. Moi, je suis plus en charge d'Église, mais dans toutes les préparations que je faisais sur quelques semaines, ben, au bout de la préparation, je disais, par exemple, au jeune homme qui avait 17 ans, 18 ans, « Bon, tu veux être baptisé. Pourquoi veux-tu être baptisé ?»« Ma grand-mère fait que me dire quand est-ce que tu te baptises ?» D'accord. Mais toi, tu veux te faire baptiser, pourquoi ?« Bah, ça va faire plaisir à mes parents, hein ?» Ok. Mais en réalité, tu veux te faire baptiser, pourquoi ? Ben, vous attendez quoi, pasteur ? Ben écoute, on verra ça plus tard. Eh ouais. Et vous, monsieur, voulez-vous vous faire baptiser ? Ok, pourquoi ? Ben, vous savez, j'ai toujours vécu seul. J'avais pas d'amis. J'étais triste, au bord du suicide. On m'a rendu témoignage dans la rue, sur le stand biblique. Je suis venu dans l'église et là j'ai trouvé des amis. Des gens qui m'ont accueilli, qui me rendent service. C'est une ambiance formidable. C'est une grande famille. D'accord, ça c'est bien. Mais vous voulez vous faire baptiser, pourquoi ? Eh oui. Parce que l'engagement avec Dieu, c'est pas pour faire plaisir à la grand-mère. C'est pas non plus parce qu'on a trouvé une famille sympathique. C'est toujours, disons, réjouissant quand on entend ça. Mais c'est pas la base du baptême. Le baptême, c'est une conviction de péché. C'est ça qui lui donne un sens. C'est ça qui lui donne une valeur. Et être convaincu de péché, c'est une souffrance. C'est une humiliation. L'évangile n'est pas là pour nous dire, tu viens, formidable, allez viens, c'est bon, tatati, tatata. Non, non, non. L'évangile nous dit, t'es un pécheur, t'es perdu, t'es péchu, t'es laid, t'es mort, t'es sale. Attendez, attendez, je ne suis pas venu pour m'entendre dire tout ça. Et si pourtant ? Parce que je ne peux pas connaître ce que la Bible appelle la joie du salut si je n'ai pas eu la conviction de péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens allaient entendre Jean-Baptiste qui leur disait « race de vipères ». Attends, Jean, quand même, on n'est pas là dans le désert par 43 à l'ombre pour se faire traiter comme ça, et pourtant ils y allaient. Et ils se faisaient baptiser pour le pardon de leurs péchés. Eh ouais. Et frères et sœurs, c'est important, et s'il y a des personnes qui ne sont pas engagées encore, il ne faut pas que ça vous décourage. Parce que la vraie dimension chrétienne, la vraie joie chrétienne, la véritable espérance chrétienne, elle commence par une souffrance. Je suis un pécheur. Eh ouais. Et là, je courbe mon front et je demande pardon. Pardon, Seigneur. Je t'ai offensé. Je me suis fourvoyé. Je suis sale. Je t'en prie, lave-moi. Nettoie-moi. Que le sang de Jésus me purifie. Et là, je peux relever ma tête. Et je connais la joie du salut. Il faut connaître Gilgal. Mispah. Mispah, ça veut dire tour d'observation. Les Israélites et les Philistins, ils se sont toujours fait la guerre. Et dans une circonstance, ils livrent bataille. Résultat, 4000 morts chez les Israélites. Alors on ne comprend pas. Attends Seigneur, tu as dit que tout lieu que foulerait la plante de notre pied, tu nous le donnes. Et là on fait 4000 enterrements. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, il y en a un qui a une idée. Il dit, ah, mais la prochaine fois, on prend l'arche de Dieu, donc le symbole de la présence de Dieu qui se trouve dans le lieu très saint. Et on amène l'arche au milieu de nous, dans le camp. Et là, on va être invincible. Et ça a plu. Et d'un coup, on a sauté, on a chanté, on a crié. C'était une idée de génie. Et les Philistins, ils ont entendu là dans le sol, les soubresauts, la terre qui tremblait. Ils ont entendu les cris. Ils se sont demandé ce qui se passait. Mais que se passe-t-il dans le camp des Israélites? Et puis là, la bataille s'est engagée. 30 000 morts. C'était pire qu'avant. Les deux fils du souverain sacrificateur, corrompus, corrupteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, Élie et Ophni et Phiné, ont été tués. Et l'arche a été prise. Et pendant 7 ans, elle s'est trouvée en terre étrangère. Alors il y a un messager qui est arrivé et qui a dit au souverain sacrificateur, l'arche est prise, tes fils sont morts et il y a 30 000 morts sur le terrain. Oh, il a fait un malaise, une crise cardiaque et lui aussi il est mort. Terrible échec. Terrible détresse. Ça a été des années très 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 compliquées. Eh oui. Pourtant, on avait amené le symbole de la présence de Dieu. Il y avait le symbole, mais il n'y avait pas Dieu. Et c'est facile de s'attacher au symbole. On a des versets fétiches, on a quelques paroles bibliques là sur les lèvres, on a des comportements, on a des attitudes, et puis on pense qu'avec tout ça, eh bien ça va aller. Quand M. Scott est arrivé en France et que les premières églises ont été créées, il avait un prospectus qui était une demi-page, hein, un peu comme ça. Et il y avait cette particularité, c'est qu'il y avait comme le monde là, le globe, au milieu il y avait une croix et dessous il y avait Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient, puis bon, l'adresse des réunions, programme des réunions. Et c'était à peu près ce type de traité qui était distribué. Puis après, c'est tombé en désuétude, on a fait d'autres prospectus, etc. Puis un jour, il y a un pasteur qui a dit, mais je voudrais réhabiliter ce prospectus. Et il l'a réhabilité, et il l'a distribué. Ça a fait comme n'importe quel prospectus. Hein. Ça n'a pas fait venir plus de monde, ça n'a pas guéri les malades, ça n'a pas convaincu les pécheurs, parce que ce n'était pas le prospectus de Scott qui a mené le succès de la prédication de l'Évangile. C'était le ministère du frère. Et quelquefois, on pourrait s'attacher à certaines formes, essayer de ressusciter certaines choses et dire « Ouais, mais ça a marché autrefois, donc ça va marcher aujourd'hui. » Ce n'est pas obligatoire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ce n'est pas ça. Je dis que ce n'est pas le papier, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la couleur des murs, ce n'est pas la longueur de la salle, ce n'est même pas l'emplacement du lieu de réunion qui a produit les résultats. C'est le ministère. C'est la prédication de l'Évangile. La prédication de la foi. Et Dieu a béni et confirmé sa parole. Et il serait tellement facile de s'attacher à certaines formes et de tenter de se rassurer. Un jour, dans une église, une femme m'a dit « Je fais ce que vous me dites, ça fait des mois ». Et ça ne marche pas, il n'y a rien qui change. Ah, et j'ai dit, vous faites quoi? Qu'est-ce que c'est que j'ai dit? Ben, vous dites qu'il faut serrer la parole dans son cœur. Hein? Et vous faites quoi? Ben, je prends ma Bible et je la serre. Ah oui, d'accord. Je dis, mais c'est pas ça que ça veut dire. Bon, je ne me suis pas moqué d'elle, bien sûr. Je dis, c'est pas ça que ça veut dire. Serrer la parole dans son cœur, c'est la parole. C'est le texte que je lis et que j'accueille. Et je ne veux pas qu'il puisse se dissiper et être, disons, ébranlé par d'autres idées, d'autres pensées. Ce n'est pas le livre que je mets là sur ma poitrine et que je serre très fort. Et pour faire autre chose, je mettrai peut-être une sangle pour le maintenir. Oui, donc on peut s'attacher. Mais ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait après différentes étapes? Ils sont montés à Mispa, tour de contrôle, et là ils ont jeûné, et là ils ont prié, et là ils se sont examinés, et là ils ont confessé, et là ils se sont laissés contrôler par la parole de Dieu. Et les choses ont pu rentrer dans l'ordre. Et voilà ce qu'il nous faut. Il faut que nous allions à Mispa pour laisser le soin à la parole de nous contrôler, s'examiner, mettre en ordre, confesser, et c'est ça qui va nous rendre forts. Et puis le dernier point, c'est Rama. Rama, ça veut dire auteur. Samuel vivait à Rama, et il est mort à Rama, et moi ça me va bien. Il est mort chez lui. Il est mort dans sa maison. Il aurait pu mourir à Gilgal, il aurait pu mourir à Bethel, il aurait pu mourir à Mispa, qu'importe. Mais il est mort chez lui. Et là, chez lui, il y avait un autel. Il y bâtit un autel. Ça, c'est le symbole de la communion avec Dieu. C'est là qu'il rencontrait Dieu. Et dans le fond, c'est là qu'il se ressourçait afin d'aller à Gilgal, afin d'aller à Bethel, afin d'aller à Mispa. Et d'aller dans tous les villages environnants. C'est à Bethel, là où il demeurait, là où il y avait l'autel, là où il s'est levé auprès du Seigneur, qu'il était renouvelé, équipé, et qu'il pouvait aller faire face. Mes frères et sœurs, j'ai besoin d'être à Rama. J'ai besoin d'être ressourcé dans sa présence à un moment donné, afin peut-être d'aller dans la rue, afin d'aller faire un stand, afin d'aller faire ceci, d'aller faire cela, d'aller rendre visite. J'ai besoin d'être équipé, j'ai besoin de cet autel. La science acquise n'est pas suffisante. Je peux acquérir une certaine expérience, bien sûr, mais il y a nécessité que ça soit renouvelé, que ça soit rafraîchi, pour conserver le dynamisme et l'énergie nécessaires. Paul dit aux Éphésiens, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est bon de réaliser qu'on est assis avec lui à ses côtés dans les lieux célestes. Et à partir de là, on voit les choses un peu différemment. Parfois, il y a des éléments, là, on a l'impression que c'est un géant, on va être écrasé. Mais quand on est auprès du Seigneur, on se rend compte que c'est un petit caillou. Et puis, quelquefois, ici-bas, on dit « Ouais, mais ça, c'est rien du tout, c'est un gravillon. » Ouais, mais quand on est auprès du Seigneur, on se rend compte que c'est une montagne gigantesque. Eh ouais, c'est bon d'avoir son regard. Alors, je vais peut-être vous faire sourire, j'ai dû faire le Mont Blanc 25 ou 30 fois dans ma vie. En avion. Oui, parce que selon où on prend l'avion pour aller, entre autres, au Moyen-Orient, puisque là, c'était la 43e fois que j'y allais, ben, on passe pas loin, ou voilà, et puis si le temps est découvert, on peut le distinguer. Mais c'est tellement plus facile de le voir en avion. Hein? Et de s'imaginer ceux qui grimpent, qui ont froid, qui perdent le piolet, qui ont perdu un gant, enfin bref. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la satisfaction d'être arrivé au sommet. Mais bon, là-haut, on voit les choses différemment. Et de temps en temps, il est bon d'être à ses côtés pour voir comme il voit la réalité, afin d'affronter la réalité avec les armes, avec les éléments, eh bien, qui correspondent à cela. Toute sa vie, il fut un homme fidèle. Et on comprend que lorsqu'il est mort, tout Israël l'a pleuré. C'était une grande perte. Et la Bible dit, les hommes pieux disparaissent. Cela ne doit pas nous laisser indifférents, afin que nous puissions être la génération qui prend la suite et que nous soyons des hommes pieux, des femmes pieuses. Ce n'est pas parce que ces hommes sont partis, que ces femmes sont parties, que tout est fichu, non. Il y a la relève. La relève, elle est là. Et puis dans ceux qui sont plus jeunes, etc. Et il nous faut ambitionner, souhaiter vivre la vie qu'ils ont vécue, souhaiter être comme ils ont été. Je disais hier, on avait une journée avec les stagiaires de notre région, les probatoires, et quelques pasteurs sont venus, on était 52. Une super journée. Et là, il y avait beaucoup de tout jeunes qui commencent, eh bien, dans la formation pastorale. Et je leur ai dit en conclusion ce que le premier pasteur que j'ai eu en formation me disait. Il me disait, Alain, moi, je veux travailler pour que tu sois meilleur que moi. Et je n'en prendrai pas ombrage. Et je leur ai dit, si vous devenez meilleur que nous, eh bien, Dieu soit béni. Mais essayez déjà d'être à notre niveau. Essayez d'être comme nous. Mais si vous êtes meilleur, eh bien, tant mieux. C'est notre ambition. Et ce doit être notre ambition. On ne va pas jalouser, on ne va pas prendre ombrage. Non, non, on travaille pour qu'il soit meilleur, plus efficace. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour ce partage libre. Et nous croyons que...